César naquit le 10 du mois de juillet, 100 ans juste avant Jésus-Christ. Et nous dirons plus tard comment, à notre avis, il fut un des précurseurs de la religion chrétienne. Nulle origine moderne, si ambitieuse qu'elle soit, ne saurait se comparer à la sienne. Ni celle des Mérodes, qui prétendent descendre de Mérovée, ni celle des Lévi, qui se disent cousins de la Vierge. Écoutez-le lui-même dans l'éloge funèbre de sa tante Julia, femme de Marius le Vieux. « Mon aïeul maternel, dit-il, descendait d'Ancus Marcius, l'un des premiers rois de Rome, et mon père appartenait à la famille Julia, dont Vénus fut la source. On trouve donc dans ma famille la sainteté des rois, qui sont les maîtres des hommes, et la majesté des dieux, qui sont les maîtres des rois. » Peut-être, nous autres modernes, sceptiques que nous sommes, douterions-nous de cette généalogie, mais 80 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque où César faisait son discours, personne n'en doutait. En effet, César avait en lui, transmise à travers les siècles, beaucoup de qualités de ce quatrième roi de Rome, qui réunissait, disent les historiens, à la valeur de Romulus, son prédécesseur, la sagesse de Numa, son grand-père, qui avait agrandi et reculé jusqu'à la mer le territoire romain, fondé la colonie d'Ostie, jeté sur le Tibre le premier pont permanent, enfermé dans le Pomerium le mont de Mars et le mont Aventin, et organisé, si l'on peut appliquer ce mot à l'Antiquité, cette fameuse commune romaine, plèbe agricole, qui donna à la République ses plus grands hommes. Vénus, de son côté, a été prodigue envers lui. Il a la taille haute et mince, sa peau est blanche et fine, son pied et sa main sont modelés sur le pied et la main de la déesse de la fortune et de la beauté. Il a deux yeux noirs et pleins de vie, dit Suétone. Des yeux de faucon, dit Dante, et son nez légèrement recourbé lui donne avec cet oiseau, et même avec l'aigle, une de ces ressemblances comme en ont avec les animaux véritablement nobles, les hommes véritablement grands. Quant à son élégance, elle est proverbiale. Il s'épile la peau avec soin. Il a, même dans sa jeunesse, ses cheveux rares qui lui feront une calvitie précoce. Ses cheveux, il les ramène donc avec le plus grand art sur le devant de sa tête, ce qui fait que Cicéron ne se défie pas de ce jeune homme si bien coiffé et qui se gratte la tête avec un seul doigt pour ne pas déranger l'économie de sa chevelure. Mais s'il l'a, qui est un autre politique que l'avocat de Tusculum, qui a des yeux bien autrement perçants que l'ami d'Atticus, s'il l'a, en le voyant marcher mollement sur les franges de sa toge, s'il l'a, le montre du doigt et dit « Prenez garde à cette ceinture lâche ». On ne sait pas grand-chose sur la première jeunesse de César. Rome, occupée des sanglantes disputes de Marius et de Sylla, ne fait point attention à cet enfant qui grandit dans l'ombre. César a 16 ans déjà quand le dictateur remarque au forum, au Champ de Mars, sur la Via Appia, un bel adolescent qui marche la tête haute et souriante, qui va rarement en litière on n'est point assez vu, qui, tout au contraire de Scipion, Nasica ou Émilien, nous ne nous rappelons plus au juste, lequel demandait à un paysan aux mains calleuses « Mon ami, marches-tu donc sur les mains ?» qui, au contraire de ce Scipion, laisse tomber sa main blanche et efféminée entre les mains les plus rudes. Ce jeune homme connaît par leur nom jusqu'aux esclaves. Il passe, orgueilleux et sans baisser la tête devant les plus puissants, mais courtise et flatte le plébéien en tunique.